Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Quelques 200 missions archéologiques étrangères œuvrent actuellement dans la vallée du Nil. On l'apprend, et c'est au pied d'une pyramide, mieux un mastaba, qu'un bateau vieux de 4500 ans vient d'être découvert par des archéologues de l'Institut d'égyptologie tchèque. L'Égypte serait-elle un don du Nil? Probablement, toutefois, parce que nous ne souhaitions ni descendre ou remonter le grand fleuve, mais plutôt sortir des chemins battus. Nous évoquerons les Égyptiens et la mer, sujet encore peu abordé par la recherche archéologique. Spécialiste des mondes pharaoniques, président de la Société française d'égyptologie, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, il a travaillé à Karnak, Deir el-Médineh, et dans le Sinaï, mais explore actuellement les rivages de la mer Rouge. Pierre Tallet, bonjour.
Bonjour.
Pierre Tallet, la communauté des égyptologues a longtemps pensé que les Égyptiens ne pouvaient être un peuple de la mer. L'Égypte se suffirait-elle à elle-même ?
Alors, je ne sais pas si vous voulez parler de l'Égypte ou de l'égyptologie. En tout cas, l'Égypte, il est très clair qu'elle a été en contact avec les régions avoisinantes très tôt dans son histoire, pour des raisons de conquête éventuellement, mais aussi pour se procurer des matériaux précieux dont elle pouvait avoir besoin sur son territoire. Quant à l'égyptologie, je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus souvent qu'auparavant, justement, à l'histoire de ses contacts avec les régions périphériques de la vallée du Nil.
C'est nouveau ?
C'est assez relativement nouveau, mais je pense que justement la redécouverte du littoral de la mer Rouge en particulier a apporté une nouvelle perspective dans l'étude de ces échanges et des contacts avec des régions qui sont parfois relativement éloignées de l'Égypte.
Et la Méditerranée ?
Et la Méditerranée aussi a fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Il y a bien sûr des travaux à Alexandrie, sur toute la côte méditerranéenne, l'identification aussi de ports qui parfois remontent au Nouvel Empire. Donc là encore, il y a toute une histoire qui est en train de s'écrire sur les échanges qui mettent en jeu l'Égypte avec les régions méditerranéennes.
On le sait désormais, les Égyptiens avaient un mot pour désigner la mer ?
Alors les Égyptiens avaient probablement un mot pour désigner la mer. On retrouve à plusieurs reprises dans la documentation qui concerne les rivages égyptiens la terminologie de Wadj Our qui voudrait dire la Grande Verte. Mais c'était pendant des années en fait une sorte de controverse entre égyptologues, certains pensant que cela pouvait aussi désigner les étendues vertes du delta du Nil. Donc il s'agit en fait d'un débat qui est toujours ouvert en partie, mais qui semble en grande partie maintenant, je dirais, tranché par les découvertes sur la côte de la mer Rouge qui ont permis d'identifier justement des structures portuaires en relation avec cette terminologie de Wadj Our.
Vous avez retrouvé ce mot dans vos terrains ?
Alors moi, non, justement pas. C'est à Mersagawassis, un site qui se trouve bien plus au sud que ceux que j'étudie ces dernières années, que l'on a retrouvé une stèle qui justement raconte l'histoire d'un fonctionnaire qui assemble des bateaux sur le rivage de Wadj Our pour se rendre au pays de Punt, qui se trouve certainement aux confins méridionaux de la mer Rouge.
La Grande Verte serait la mer Rouge, la mer Vermillon des textes anciens ?
Alors on ne sait pas vraiment, est-ce que ce terme est plurisémantique ? Est-ce que ce terme désigne toute forme de mer ? Mais en tout cas, il semble bien qu'au moins dans un cas, il puisse s'appliquer à la mer Rouge.
Pourquoi les rivages égyptiens de la mer Rouge étaient-ils restés une zone archéologique, on va dire vierge ?
Je pense qu'effectivement, il y avait une controverse, là encore, chez les égyptologues, qui pensaient que les Égyptiens, à la base, n'étaient pas du tout un peuple de marins, un peuple qui était habitué à naviguer sur le Nil, mais qui était peu enclin à s'aventurer en haute mer. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, peu de personnes se sont intéressées jusqu'à une date relativement récente aux côtes de la mer Rouge, qui, à l'époque pharaonique, semblait être une terra incognita complète. C'est en fait avec la découverte d'un premier site à la fin des années 70, que l'on a commencé à se douter que les Égyptiens pouvaient s'impliquer en mer Rouge, et en particulier avec la découverte donc de ce site de Mersagawassis par un archéologue égyptien du nom de Abdelmonem Sayed.
Mais pourtant, Jean Leclan, grand personnage de l'égyptologie, avait fait des recherches vers la mer Érythrée.
Oui, alors Jean Le Clan a travaillé sur presque tout le monde égyptien, donc c'est quelqu'un qui avait une culture extraordinaire, je dirais tout à fait de l'ensemble du monde égyptien. Mais en fait, il manquait quand même pour ses recherches, je dirais, des choses plus concrètes peut-être, des vestiges archéologiques positionnés sur les rivages, et c'est ce que depuis maintenant une trentaine d'années, on retrouve régulièrement.
Alors vous le disiez, en 1976, un archéologue égyptien découvre les premiers vestiges maritimes de l'Égypte pharaonique.
Alors il a retrouvé...
C'est très tardif déjà.
Alors c'est relativement tardif, mais enfin malgré tout, c'est ce site daté de à peu près 2000 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même un site relativement ancien. À Mersagawassis, cet archéologue avait retrouvé des constructions en bord de mer, des petits hôtels, des structures votives. Bon, certaines étaient d'ailleurs construites avec des ancres de bateaux et qui commémoraient des expéditions lancées par l'État pharaonique pour atteindre le mythique pays de Punt, qui se trouve vraiment sans doute à l'extrémité méridionale de la mer Rouge. Donc la connexion était assez claire au travers de cette documentation, et l'une de ces stèles racontait même l'histoire d'un responsable capable d'assembler des bateaux sur la côte pour pouvoir se rendre justement au pays de Punt. Donc cette documentation était déjà assez éloquente en soi, mais elle a été contestée de plusieurs manières par des égyptologues pensant que finalement ces ex-voto n'étaient peut-être pas à leur première place et que finalement il n'y avait peut-être pas un contact direct entre le pays de Punt par maritime et l'Égypte.
Donc les ancres n'étaient pas des ancres.
Alors les ancres auraient pu être simplement des supports à des inscriptions votives n'ayant pas forcément une implication directe dans des voyages qui se tiendraient en mer Rouge. Alors en fait, c'est finalement la reprise des fouilles sur ce site de Mersagawassis à partir de 2001 qui a apporté la preuve absolument définitive que les Égyptiens naviguaient bien depuis ce port, puisqu'on y a retrouvé des entrepôts destinés à abriter du matériel nautique, mais aussi de très nombreux fragments de bateaux eux-mêmes.
Ces sanctuaires avaient une vocation maritime ? C'était des sanctuaires marins ?
Alors, sanctuaires marins, oui, sans doute. Ce sont des sanctuaires qui sont sans doute consacrés à célébrer le bon retour des expéditions lorsqu'elles touchent terre au retour de trajets qui les portent très très loin, finalement, de leur monde, du monde de la vallée du Nil, et qui célèbrent une opération qui doit être considérée comme un exploit. Hein, ces petits sanctuaires sont des chapelles très très modestes, parfois de simples cercles de pierre, sont placés sur une plateforme rocheuse qui domine la mer. Il est clair qu'il s'agit d'un remerciement pour le bon retour des expéditions qui se rendent dans une région extrêmement lointaine.
J'y pense d'un seul coup, Pierre Talley. Il y avait des dieux particuliers liés à la mer ?
Alors nous, on n'a pas véritablement de dieux qui sont liés à la mer. Ceux qui sont vénérés justement dans ces chapelles de Mersagawassis semblent être de façon plus classique les dieux qui sont ceux du désert oriental égyptien, c'est-à-dire ceux qui jalonnent les routes qui permettent de se rendre jusqu'au rivage de la mer Rouge.
Mais notre premier point d'ancrage sera Ain Soukna. Là, voilà un deuxième site clé pour comprendre cet aspect maritime de l'Égypte.
Oui, alors Ain Soukna est un site qui a été découvert beaucoup plus récemment. Il a été identifié en 1999 et nous avons, nous, commencé avec l'Institut français d'archéologie orientale et l'Université de Paris 4 à y fouiller en 2001. À l'époque de la découverte, le site se caractérisait là encore par des inscriptions, un panneau rocheux gravé qui gardait la trace d'expéditions parfois très nombreuses ayant transité par le site autour de 2000-1950 avant Jésus-Christ. Les inscriptions enregistrait des volumes de troupes de 3000, 4000 hommes et l'ensemble dominait en quelque sorte le rivage et la mer. À partir de la découverte de ces inscriptions, nous avons voulu en savoir plus. Pourquoi ces inscriptions se trouvaient-elles sur le bord du rivage, enfin plus exactement sur le bord de la mer? Nous sommes quand même un petit peu en retrait par rapport au rivage. Et c'est la fouille de ce site à partir de 2001 qui a progressivement livré un complexe de galeries-magasins destiné à abriter des embarcations et puis même des vestiges d'embarcations.
Alors comment découvre-t-on un port quand on est archéologue ?
Alors c'était pas du tout évident justement de découvrir un port puisque justement on n'avait pas au départ forcément l'intuition que ce serait un port. Enfin on avait peut-être l'intuition mais en tout cas on n'était pas sûr du tout que ce site pouvait servir de point portuaire. Simplement l'existence d'inscriptions en bord de mer montrait un intérêt de la culture pharaonique pour cette région qui ne semblait pas véritablement prouvée auparavant. Et puis ces inscriptions donnaient quand même un certain nombre d'indications. Elles mentionnaient la turquoise notamment qui est un produit caractéristique caractéristique du Sinaï. Et donc, on pouvait supposer que depuis ce point qui se trouve au nord du golfe de Suez, mais du côté, je dirais, du désert oriental, du côté de l'Égypte, avait été utilisé pour se rendre dans la péninsule du Sinaï. On avait également, dans ces inscriptions, les noms de responsables qui réapparaissent dans des inscriptions au Sinaï. Donc, on savait que, de toute façon, ce site d'Ain Sourna était sur la route permettant de se rendre bien plus loin dans la partie sud de la péninsule du Sinaï. Restait à démontrer qu'il s'y rendait par voie maritime et non pas par voie terrestre en contournant le golfe de Suez.
Le site d'Ain Sourna est daté, vous le disiez, des environs de l'an 2000. C'est assez tardif dans la chronologie pharaonique ?
Alors, les inscriptions d'Ain Sourna, au moment de leur découverte, dénotaient un site occupé essentiellement au début du Moyen Empire, donc à une période qui se trouve finalement au centre de la période classique de l'histoire pharaonique. Mais la fouille de ce site a permis assez rapidement de se rendre compte qu'il avait été occupé bien plus tôt et qu'un grand nombre des aménagements que l'on y trouve datent en fait de l'ancien empire égyptien, à partir du milieu de la 4e dynastie, donc autour de 2500 avant Jésus. Et l'ensemble, justement, des inscriptions retrouvées sur le site, ne serait-ce que pour la période pharaonique, montre que le site a été, justement, régulièrement employé entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ, soit pendant plus d'un millénaire.
Pierre Talley, la vocation première du site, c'est l'importation de biens précieux.
Alors oui, l'importation, mais dans des circuits qui sont entièrement contrôlés par l'État. C'est l'État égyptien qui décide du moment où l'on va se rendre dans des zones minières pour les exploiter, pour en rapporter des éléments qui sont indispensables à la construction en Égypte, sur le territoire égyptien, mais aussi au prestige de la monarchie égyptienne. Et notamment, ils allaient au Sinaï, dans une zone qui se trouve au sud-ouest de la péninsule, pour se procurer de la turquoise. Il y a des mines de turquoise dans l'ensemble de cette région. Et aussi certainement pour se procurer de grandes quantités de cuivre. Le cuivre qui est le métal de référence à cet âge du bronze et dont les Égyptiens devaient avoir des besoins de quantités extrêmement importantes.
On a une idée du volume qui aurait pu être transporté ?
Alors on n'a pas vraiment l'idée du volume. Hein. On a depuis finalement assez peu de temps aussi une idée de l'exploitation du cuivre au Sinaï. J'ai moi-même travaillé au Sinaï pendant une dizaine d'années pour justement rechercher les lieux de production du cuivre et avoir une vision générale de ces opérations minière égyptienne. Mais pour vous donner quand même un exemple, au Sinaï, j'ai découvert en 2010 un site où on avait le traitement du métal qui prenait place à l'époque sans doute de la 5e dynastie, 2400 avant Jésus-Christ à peu près, et on a retrouvé 5000 fours à métaux, ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Ce qui veut dire que les Égyptiens se procuraient d'immenses quantités de cuivre à cet endroit.
Quelle est la vocation de la turquoise en Égypte ?
Alors la turquoise entre très régulièrement dans la bijouterie, notamment dans la bijouterie royale, et on a retrouvé de la turquoise notamment dans la tombe d'un des rois de la première dynastie. Donc c'est une pierre qui a une symbolique assez particulière, hein. Sa couleur bleu ciel évoque le ciel égyptien, le ciel au moment du lever du soleil, donc c'est une pierre qui peut avoir une symbolique de renaissance assez facilement, mais c'est une pierre qui de façon assez globale est une des pierres fines principales utilisé dans la bijouterie tout au long de l'histoire égyptienne.
Et puis le Sinaï est intimement lié à la turquoise, il en porte même le nom.
Alors, je ne sais pas s'il le porte véritablement...
C'est pas la terrasse de la turquoise ?
Alors oui, à l'époque égyptienne, bien sûr. À l'époque égyptienne, et plus particulièrement à l'époque de l'Ancien Empire, la domination de cette zone assez restreinte, hein, de la péninsule du Sinaï, hein, dans la région de Abou Zenima, Abou Rodeis actuellement, s'appelle effectivement les terrasses de la turquoise, ce qui veut dire que par métonymie, les Égyptiens, au tout début, ont désigné cette région par le nom de la pierre principale, qui était la principale production que l'on pouvait en extraire.
Ce port serait lié, semble-t-il, à la ville de Memphis. Pourquoi ?
Alors la ville de Memphis à l'époque pharaonique et presque pendant d'ailleurs l'essentiel de l'histoire pharaonique, cette ville de Memphis joue le rôle d'une véritable capitale administrative. C'est celle qui a été fondée par les premiers rois de la première dynastie et même sans doute un peu avant. Hein, au Sinaï, on a retrouvé il y a quelques années une inscription datée d'un roi antérieur à Narmer où déjà la ville de Memphis est mentionnée. Donc c'est vraiment un point important de l'administration égyptienne qui s'établit à peu près à l'endroit où la vallée du Nil connaît un changement géographique important entre le delta au nord et la Haute-Égypte au sud. Donc, une ville administrative importante où siège évidemment l'administration royale, c'est depuis ce point que les expéditions, qui sont des éléments très lourds à organiser, sont justement préparées et le contact avec cette région est pour cela très important.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Pierre Thallet, en 2005-2007, deux embarcations sont découvertes au pied d'une montagne.
Alors toujours sur ce site de Ain-Sourna, au départ nous avons donc recherché des éléments d'occupation des Égyptiens de l'Antiquité sur ce site, et puis nous avons très rapidement mis au jour un système de galeries-magasins, de galeries-entrepôts, comparable à celui d'ailleurs que une équipe italo-américaine était en train de trouver exactement la même année sur le site de Mersa-Gawassis. Et nous avons fini par comprendre que ces entrepôts-magasins sont un élément absolument indispensable à ces ports égyptiens, qui ne sont pas à considérés comme des ports permanents, mais plutôt comme des ports intermittents. C'est-à-dire que on les utilise quand on a besoin de monter une expédition pour aller rechercher des produits précieux dans des zones plus ou moins excentrées. Et lorsque l'opération est terminée, eh bien ces bateaux qui ont été acheminés au travers des pistes du désert en pièces détachées, eh bien on va les placer dans des galeries et on va les laisser en attente de réutilisation jusqu'à la prochaine opération.
Les bateaux que vous avez trouvés sont construits dans la vallée du Nil, à Koptos, semble-t-il. Ce sont des sortes de kits démontables et réajustables à volonté.
Alors ces bateaux, ils sont construits dans plusieurs points sans doute de la vallée du Nil. Ceux de Mersa-Gawassis sont probablement élaborés à Koptos, qui se trouve en Haute-Égypte. Mais ceux qu'on a à Ain-Sourna ont plus probablement été justement conçus et assemblés une première fois dans la région de Memphis, qui est vraiment la capitale administrative et pour laquelle on connaît justement des zones, des chantiers pour construire les bateaux aux époques anciennes. Donc ces bateaux, effectivement, il faut imaginer qu'ils sont construits au moyen de conifères, de cèdres, d'un bois d'importation très cher en fait pour les Égyptiens qu'il fallait qu'ils aillent chercher sur les côtes du Levant. Et ils sont ensuite démontés, détachés en pièces transportables par des convois d'hommes et d'ânes. Et ils traversent les quelques 120 km qui séparent la vallée du Nil de la mer Rouge à ce point pour y être réassemblés, réajustés et utilisés. À dos d'hommes, à dos d'ânes, c'est donc une opération très lourde. Ce qui explique d'ailleurs qu'on n'est pas souhaité par la suite, une fois l'opération terminée, une fois l'expédition terminée, rapatrier l'ensemble de ces vestiges dans la vallée du Nil.
Et pourquoi ont-ils brûlé ?
Alors ça, c'est une question que l'on se pose. Ces bateaux que nous avons correspondent visiblement, d'après des datations carbone 14 que nous avons faites et aussi d'après les assemblages de céramiques qui leur sont associés, au tout début de la 12e dynastie. Donc on peut imaginer qu'ils ont été incendiés probablement autour de 1950 avant Jésus-Christ, peut-être après avoir été utilisés pendant quelques décennies sur le site. L'une des explications que nous avons trouvées à ce phénomène est l'hostilité que les Égyptiens pouvaient éventuellement rencontrer dans des zones qu'ils ne contrôlaient pas de façon permanente. Dans le désert, vous avez des tribus de bédouins qui existent, qui sont peut-être en opposition avec la présence égyptienne. Et il est clair que pour faire cesser ces expéditions dans cet espace de la mer Rouge, mettre le feu au bateau cause un gros problème à la monarchie égyptienne qui doit en fait mettre en place des structures importantes pour pouvoir les remplacer et recommencer ce cycle d'expédition.
Donc vous avez trouvé une sorte de décalage dans vos datations, j'imagine, puisque vous aviez la date de l'incendie, pas la date du bateau.
Alors là, au départ, effectivement, nous sommes trompés. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on fait des datations au carbone 14, il vaut mieux s'intéresser aux éléments les plus petits, les plus modestes, et pas prendre du bois qui provient du cœur de l'arbre. Alors évidemment, c'était en fait peut-être une erreur de début, mais nous avons d'abord cherché à dater ces charbons en prenant les plus beaux et ceux qui étaient le plus au cœur des bois, et ça nous donnait des datations qui parfois étaient bien antérieures, de parfois 500, 600 ans à la date où ces bateaux avaient brûlé. Mais ceci a pu être recalibré par l'analyse d'éléments beaucoup plus fins comme des cordages ou encore des nattes qui étaient associées à ce rangement des embarcations.
Des inscriptions officielles ou non ont aussi été découvertes. Que nous racontent-elles ?
Alors les expéditions justement, eh bien on en a pour plusieurs périodes sur ce site d'Ain-Sourna. On en a de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, donc des deux périodes où le site semble avoir vraiment très bien fonctionné pour notamment permettre à des expéditions de se rendre au Sinaï. Et ces comptes rendus d'expédition donnent généralement d'abord une date, quand l'expédition a-t-elle pris place. Elle nomme la région cible. Dans le cas de l'Ancien Empire, nous avons deux fois la mention des terrasses de la Turquoise. Elle donne parfois des quantifications de main-d'œuvre impliquées dans l'opération et toute une série de titres de fonctionnaires qui sont eux aussi responsables de l'encadrement de l'opération. Alors c'est intéressant, hein, on avait certainement aussi des inscriptions narratives, mais malheureusement elles ne sont pas parvenues dans un état de conservation suffisant pour tout savoir. Hein, par exemple, on a pour le règne de Djedkare-Isesi, un roi de la 5e dynastie, autour de 2400 avant Jésus-Christ, une très belle inscription commémorative qui nous dit: on a rapporté tel produit, mais c'est le le pronom du produit est en lacune. On est parti de tel endroit, mais on ne sait pas où les Égyptiens se rendaient. Et puis on a ensuite les noms de bateaux, mais on n'a finalement qu'une partie des noms. Donc malheureusement, cette documentation n'est pas toujours complète, mais elle donne au moins un aperçu du mode de fonctionnement des expéditions.
Pierre Tallet, on sait désormais qu'on connaît le nom du commanditaire, la destination des navires, les produits rapportés, mais l'on sait aussi le nom des embarcations. Il s'agirait d'embarcations giblites. De quoi s'agit-il ?
Alors ça, c'est une découverte intéressante qui a été faite justement sur ce site d'Ain Sourna. Au moins deux inscriptions mentionnent des bateaux qui sont appelés Kébénet. Effectivement, ce mot Kébénet vient du nom de Byblos, en fait, dans l'Antiquité égyptienne. Ces bateaux sont donc faits à la mode de Byblos. Alors, le problème serait de savoir, évidemment, ce que, dans l'esprit des Égyptiens, nous avons pratiquement les plus anciennes attestations de ces navires de Byblos dans la documentation pharaonique. Dans l'esprit des Égyptiens, à quoi cela peut-il bien correspondre ? Est-ce qu'il s'agit de bateaux dont la technique d'assemblage, la forme, provient véritablement du Proche-Orient ? Ou est-ce que cette nomenclature désigne simplement le matériau dont ces embarcations sont constituées, qui sont effectivement bâties avec des conifères, des cèdres qui viennent probablement du Levant. Alors que la question reste entière, puisque si nous avons retrouvé des bateaux du Moyen-Empire, nous n'avons pas encore retrouvé suffisamment d'éléments de bateaux de l'époque précédente qui correspondraient à cette nomenclature pour trancher les éléments de ce débat.
Ces embarcations font combien de mètres ? Est-ce que ce sont d'ailleurs des embarcations hauturières, de haute mer ?
Alors, malgré tout, les embarcations qui ont été retrouvées dans ces galeries d'Ain Sourna, bon, elles sont incendiées, mais heureusement, la voûte de la galerie s'est effondrée, le bois a brûlé en charbonnière, a gardé beaucoup de formes, donc on peut vraiment les analyser. Patrice Pomet, qui est le spécialiste de la navigation ancienne qui les analyse, suggère que ces bateaux faisaient 14 mètres de long, ce qui en fait déjà des bateaux de taille d'une taille respectable. Ils étaient manœuvrés à la voile, manœuvrés également à la rame. On peut d'ailleurs les mettre en regard avec une série de représentations contemporaines qui pourraient les dépeindre naviguant sur la mer, c'est une possibilité. Donc ces bateaux, eh bien, dans le cadre effectivement de la mer Rouge, ils devaient suivre la côte, mais enfin le golfe de Suez n'est pas en soi, je dirais, un élément de haute mer, puisqu'on voit très très souvent la côte qui est en face lorsque l'on se tient sur l'une des côtes du golfe de Suez.
Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons les Égyptiens et la mer avec Pierre Tallet, maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne. Pierre Tallet, ce que vous avez aussi découvert, c'est tout simplement le port du roi Khéops.
Alors oui, un deuxième site portuaire a été mis en évidence beaucoup plus récemment. Il s'agit en fait d'un site qui avait été découvert à plusieurs reprises, d'abord par un explorateur anglais, puis par des pilotes
par
du golfe de Suez.
Par Burton.
Par Burton, bien sûr, oui.
Et Wilkinson.
En fait, c'est Wilkinson qui l'a signalé la première fois dans un article paru au début du 19e siècle. Il avait trouvé des galeries peu éloigné de la mer, mais comme à 6 km du rivage, notait de la présence de bois consumé, de céramique, mais il avait tranché en disant que ce site était en fait un site d'époque tardive, un site de catacombes avec peut-être le phénomène de l'incinération des morts. Le site se trouve en fait au Wadi El Jarf, qui est un endroit qui se trouve sur la côte du golfe de Suez, 100 km plus au sud qu'Ain Sourna, au débouché d'un grand corridor naturel qui s'appelle le Wadi Araba. Alors ce site du Wadi El Jarf, c'est en fait un site, on a pu commencer à travailler sur le site après l'avoir relocalisé, d'après les notes des différents explorateurs qui l'avaient découvert, au moins deux fois, donc d'abord les explorateurs anglais, et puis des archéologues amateurs, pilotes du canal de Suez qui l'avaient redécouvert dans les années 1950. Et ce site, nous avons pu commencer à l'étudier en 2011, donc nous en sommes à la sixième campagne bientôt sur le terrain, qui aura lieu en mars 2016.
Là encore, des galeries bien colmatées, avec une grande jetée en L qui protégerait une sorte de port artificiel, c'est bien ça ?
Alors oui, on a fait toute une série d'aménagements, beaucoup plus importants finalement qu'à Ain Sourna, puisque nous avons à la fois le même système de galeries-magasins, mais avec une échelle beaucoup plus grande. 30 galeries sont creusées dans la montagne, il n'y a que 10 galeries à Ain Sourna et 8 seulement à Mersagawassis. Et puis pour la première fois, nous avons vraiment des éléments construits dans la mer, et l'élément le plus remarquable du site est sans doute cette grande jetée en forme de L, qui fait pratiquement 200 mètres dans sa dimension d'ouest en est, et à nouveau encore 120 mètres dans sa dimension nord-sud. Elle est orientée face au vent du nord, qui est le vent dominant sur le golfe de Suez, et détermine une immense zone d'eau calme pour abriter des embarcations.
Comment se présente le site? Quel est le paysage de cette mer Rouge?
Alors, la mer Rouge, à cet endroit-là, est une zone finalement encore assez peu construite. Il faut savoir que la mer Rouge a fait l'objet d'un aménagement très très important du littoral ces dernières années. Mais vous avez une immense plaine littorale à cet endroit-là, et qui fait plusieurs kilomètres de large. Et ensuite, vous avez un ressaut montagneux qui est le désert qu'on appelle le Gebel El Galala El Qibleya, qui se trouve à cet endroit-là. Et les Égyptiens se sont installés dans cet endroit parce que il y avait plusieurs atouts naturels, l'un des plus importants d'entre eux étant la présence d'une source. Vous avez immédiatement au-dessus du site de Wadi Jarf, un monastère copte, le monastère de Saint-Paul, construit sur une source ancienne. Il ne fait aucun doute que cette source était déjà présente à l'époque pharaonique et qu'elle est probablement l'une des raisons de l'installation des Égyptiens à cet endroit.
La découverte de papyri datant de Khéops est tout à fait extraordinaire. Nous serions là sur les plus vieux papyri d'Égypte?
Oui, alors effectivement, l'une des plus belles découvertes sur ce site du Wadi Jarf, qui n'était absolument pas attendue d'ailleurs, on s'attendait à trouver des morceaux de bateaux, beaucoup d'éléments nautiques, des cordages évidemment, mais en dégageant le complexe de galeries et entrepôts qui avait servi comme à une sourna à entreposer des embarcations démontées, nous sommes tombés sur un lot d'archives très important, plus de 800 fragments de papyrus qui sont très clairement datés du règne de Khéops. Nous avons même la date qui est certainement celle de la dernière année du règne de ce roi, très expressément, et ces papyrus sont à ce jour les plus anciens jamais découverts en Égypte. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on avait déjà trouvé un papyrus vierge, mais ce sont en tout cas les premiers papyrus inscrits que l'on connaisse dans l'histoire égyptienne.
Que nous raconte-t-il ?
Alors, ces papyrus sont passionnants. Ils sont composés de deux catégories de documents. Nous avons en fait un lot d'archives correspondant à une équipe de bateliers qui devait être employée sur ce site du Wadi Jarf. Et nous avons à la fois des bordereaux administratifs, de livraison, de matériel, de nourriture au bénéfice de ces équipes qui travaillent pour le roi. Et nous avons aussi un très grand journal de bord tenu par cette équipe qui, jour après jour, rend compte de façon assez succincte de son activité.
Le premier journal de bord de l'humanité ?
Alors probablement, sans aucun doute, même je dirais, nous sommes autour de 2600-2500 avant Jésus-Christ. Et le personnage qui rédige ces journaux de bord, qui s'appelle l'inspecteur Mérère, il a sans doute une petite équipe d'une quarantaine de personnes sous sa direction, des bateliers, des spécialistes de la navigation. Et chaque jour, il dit exactement où il a passé la journée et aussi où il a passé la nuit. Et il donne des idées sur ce qu'ils font dans la journée.
Vous pourriez presque faire une anthropologie maritime.
Alors probablement, on pourrait en fait en tout cas avoir des informations assez importantes sur la navigation en Égypte ancienne. Mais le paradoxe, c'est que les papyrus qu'on a retrouvés sur ce site du Wadi Jarf, on s'attendait, on espérait qu'ils nous donneraient des informations sur le port, son fonctionnement. C'est probablement le cas d'ailleurs d'une partie des documents administratifs, des comptabilités que nous avons. Mais le journal de bord, paradoxalement, relate une autre mission de cette équipe de navigation. Et cette mission prend place auprès de la pyramide de Khéops à Giza. En fait, ces marins sont des spécialistes de la navigation. Une partie de l'année, ils sont employés dans la vallée du Nil, où ils acheminent des blocs pour la construction de la pyramide de Khéops. Et une autre partie de l'année, ils sont envoyés sur la mer Rouge pour aller chercher du matériau dans les mines du Sinaï.
Alors, il n'y a pas non plus que le Sinaï. Il y a aussi le pays mythique de Punt.
Alors ce pays de Punt, oui, on le sent venir un petit peu en filigrane au travers de tous ces ports de la mer Rouge. La première et le premier élément que l'on a, c'est Mersagawassis, puisque ce site semble avoir essentiellement fonctionné pour assurer l'entretien d'équipes qui allaient sur la partie méridionale de la mer Rouge, donc les confins, le Bab el Mandab, qui est probablement la zone où il faudrait rechercher ce pays de Punt. C'est donc déjà finalement un pays très éloigné qui nécessite une navigation assez prolongée, hein, probablement un mois à peu près de navigation pour s'y rendre.
Pierre Tallet, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Richard Dufour, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, dans le Salon Noir, Yves Coppens fera le tour de l'actualité préhistorique.